le fait qu'on soit beaucoup, etc., n'empêche pas d'avoir beaucoup de responsabilités, et ce, dès le départ. Ce qui fait que moi, j'ai appris énormément en peu de temps, et ça, c'est assez gratifiant. Le réseau d'accueil est en constante évolution et qui a un caractère assez urgent dans le travail, du fait que les gens ne comptent jamais leurs heures. Et ça, c'est hyper motivant et positif parce que ce sont toujours des personnes qui sont motivées à faire leur travail toujours à fond.
Bonjour et bienvenue dans Pastry Girls, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Coucou, c'est Alice et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pastry Girls avec Audrey, où l'on va parler de son rôle d'attaché financier chez Fedasyl. Qu'est-ce que Fedasyl est une entreprise parastatale? Quels sont les différents types de profils que l'on retrouve dans cette entreprise? Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'un attaché financier? Comment arrive-t-on là et quelles sont les compétences nécessaires pour y parvenir? C'est avec Audrey qu'on a décidé d'aborder tous ces différents sujets aujourd'hui. Audrey a été diplômée de la LSM en 2018 après un échange au Chili. Ayant terminé ses études, elle a ensuite accompli un stage de 6 mois chez Nestlé. Elle a après rejoint Fedasyl, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, où elle travaille maintenant depuis presque 2 ans. Si le secteur public et plus précisément la politique migratoire t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite surtout pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Audrey, bienvenue sur Pastry Girls et un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui.
Hello, merci à vous toutes pour la proposition. Déjà, ça me fait super plaisir d'être là parce que je trouve que c'est une chouette initiative pour aider les futurs et les jeunes diplômés pour faire leur choix concernant leur premier emploi. Donc, c'est avec plaisir.
Merci mille fois. Donc, le focus de cet épisode, ça va être vraiment ton rôle d'attaché financier chez Fedasyl. Mais peut-être, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer brièvement ce qu'est Fedasyl et puis comment est structurée l'entreprise?
Donc, Fedasyl, c'est l'agence fédérale qui s'occupe de l'accueil des demandeurs d'asile. Du coup, c'est une organisation parastatale de type A. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un organisme d'intérêt public qui est juridiquement distinct de l'État. Donc, qui est sous la tutelle d'un ministre ou, comme c'est le cas chez Fedasyl, sous celle d'un secrétaire d'État, comme c'est le cas ici de Monsieur Sami Mehdi. Donc, Fedasyl est chargé de l'accueil des demandeurs d'asile. En fait, le demandeur d'asile, appelé demandeur de protection internationale, va parcourir différentes étapes et depuis la présentation de sa demande jusqu'à la décision finale, Fedasyl va s'occuper de l'accueil de celui-ci. Donc, sur la base de la loi accueil, Fedasyl est chargé pendant le processus de tout ce qui est l'octroi de l'aide matérielle, donc le logement, les repas, les vêtements, l'accompagnement médical, social, psychologique, ainsi qu'une aide juridique et d'autres services comme l'interprétariat et les formations. En fait, Fedasyl est réparti entre les centres fédéraux, le siège central et les bureaux régionaux. Fedasyl, lui, est gestionnaire du réseau d'accueil, donc ils organisent soit directement une partie des places d'accueil via leurs centres fédéraux, ou soit confient également via des conventions l'organisation de l'accueil à des tiers, comme par exemple la Croix-Rouge, le SAMU social, les CPAS également, le CIRE, Caritas, etc., qui sont des organisations qui ont droit à une subvention pour organiser et gérer l'accueil. Du coup, de mon côté, moi, je travaille au siège central, au service budget et contrôle des conventions, qui fait partie du service budget et finances. Et on travaille souvent en collaboration avec les services opérationnels, plus particulièrement avec la cellule coordination, qui s'occupe, elle, du suivi opérationnel et nous, du suivi financier.
Ok, top. Merci mille fois pour cette explication. C'est super clair. Est-ce que tu peux maintenant peut-être nous expliquer concrètement ce qu'est un attaché financier? Et puis plus spécifiquement, ce que tu fais au jour le jour.
Un attaché financier, c'est quelqu'un qui s'occupe en bref du suivi plus administratif et financier, bien sûr, donc au niveau du budget, etc. Donc moi, au day-to-day, on va dire que déjà, je contribue à l'établissement des conventions avec les partenaires. On supervise leur gestion budgétaire et financière. On suit aussi attentivement tout ce qui est changement au niveau des places. Il y a des nouvelles places, par exemple génériques, des places MENA qui vont s'ajouter dans le réseau d'accueil. Étant donné que c'est en constante évolution, ça a des conséquences aussi sur le budget des partenaires, donc on suit ça attentivement. On effectue aussi l'analyse des budgets des projets qui sont soumis par les partenaires. On gère le suivi et les contrôles financiers des subventions. par exemple le suivi des déclarations de créances. On effectue des reportings financiers pour fait d'asile, pour offrir une vue d'ensemble sur la situation financière de l'organisation. En tant qu'attaché financier, on planifie aussi, on organise, réalise et rend compte des missions d'audit avec les différents partenaires pour s'assurer que les subsides qui sont octroyés par fait d'asile sont utilisés conformément aux objectifs des conventions et conformément aux lois et règlements en vigueur. On s'assure aussi des suivis au niveau des mouvements comptables qui résultent des contrôles budgétaires que l'on fait sur les dépenses des partenaires. On participe aussi à la mise en place des procédures, des systèmes de gestion de contrôle pour s'assurer de la qualité et de la gestion vis-à-vis des partenaires en matière financière. Et alors aussi, on monitore mensuellement tout ce qui est forecast des dépenses des partenaires pour estimer les dépenses et s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement budgétaire.
Ok, top, plein de choses. Donc, avant de commencer ton premier job chez FEDASIL, tu as fait plusieurs stages en marketing, si je ne me trompe. Pourrais-tu nous expliquer ton cheminement, comment tu es arrivé chez FEDASIL et comment s'est passé ton recrutement et tes premiers jours?
Bien sûr. Donc, quand j'étais encore à l'UNIF, j'ai fait un stage de 3 mois lors de ma dernière année de master en digital marketing dans une agence média. Ensuite, après mes études, j'ai fait un stage de marketing pendant 6 mois chez Nestlé au sein de l'équipe Nescafé pour financer mon voyage en Asie qui durait plusieurs mois. Du coup, à mon retour de voyage, j'ai commencé à chercher du travail, mais je voulais travailler dans une organisation qui cadre vraiment avec mes valeurs et mon envie d'avoir un travail qui a un impact positif sur la société et qui poursuit un objectif dans lequel je me reconnais surtout. Du coup, je cherchais un peu plus dans le domaine humanitaire. Et par hasard, en scrollant un peu sur Internet, je suis tombée sur le site du CELOR, qui est en fait l'organisme et le site via lequel il faut passer pour postuler dans le public, car le CELOR s'occupe du personnel de l'État, du recrutement, etc. Du coup, étant donné que je suis de base très intéressée par les thématiques migratoires et qu'il y avait un poste vacant d'attaché financier chez FEDASIL, ben ça m'a directement tapé dans l'œil et j'ai postulé. Ils ont d'abord alors fait une présélection sur base du CV, de la lettre de motivation, du diplôme, etc. Puis ils m'ont invité à un entretien de sélection qui a duré environ 2 heures, durant lequel ils ont fait un premier test d'environ 1 heure avec des questions financières et suivi d'un entretien un peu plus classique avec cette fois le directeur RH et la responsable finance. Du coup, j'ai été sélectionnée, j'étais super contente et j'ai commencé en janvier chez FEDASIL. Ce qui est bien, en fait, chez eux, c'est qu'il y a tout un trajet d'introduction avec des formations juridiques, des modules d'apprentissage pour connaître un peu davantage le trajet que va suivre une personne qui fait sa demande d'asile. Il y a aussi des formations sur toute la politique d'asile et les différentes instances d'asile, comme l'Office des étrangers, la CGRA, le Conseil des contentions des étrangers, etc. Du coup, c'est chouette parce qu'on a vraiment l'opportunité d'en connaître davantage sur le domaine de l'asile, que moi, je connaissais un peu brièvement, mais pas non plus en détail, donc c'est chouette parce qu'on a vraiment l'opportunité d'en apprendre plus et parce que c'est directement lié à notre travail, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas sur le terrain. Et aussi, en fait, en tant que collaborateur au siège central, tu as également la possibilité de faire un stage en interne afin d'avoir une idée de base de la réalité sur le terrain. Donc pour cela, on peut faire un stage de plus ou moins 1 semaine ou plus dans l'un des centres d'accueil fédéraux pour travailler en tant qu'animateur, etc. Donc on fait vraiment le job normal de quelqu'un qui travaillerait dans un centre d'accueil pour un peu en apprendre davantage sur le terrain.
Ouais, c'est vraiment très chouette de pouvoir aussi aller sur le terrain pour comprendre plus précisément comment cela fonctionne. Tu nous as expliqué aussi tantôt que FEDASIL avait le statut particulier d'être parastatal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les implications sur ton job ?
Ah oui, donc en fait, chez FEDASIL, dû au fait que c'est une organisation parastatale, on n'est pas statutaire, mais employé contractuel, avec soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, comme c'est mon cas. D'ailleurs, en parlant des fonctionnaires et du stéréotype du coup que ça englobe souvent, j'ai l'impression que souvent ces personnes, elles sont assez perçues comme des personnes qui comptent leurs heures et qui essayent de travailler le moins possible. Et je trouve que chez FEDASIL, on est vraiment bien loin de ce stéréotype, ce qui est super, parce que c'était notamment l'une de mes appréhensions de travailler dans le public. Mais c'est aussi lié, je pense, au fait que le réseau d'accueil est en constante évolution et qu'il y a un caractère assez urgent dans le travail, du fait que les gens comptent jamais leurs heures. Et ça, c'est hyper motivant et positif parce que ce sont toujours des personnes qui sont motivées à faire leur travail toujours à fond. Et du coup, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, FEDASIL, c'est une agence qui compte beaucoup d'employés. On est à peu près 300 employés rien qu'au siège central. Mais je trouve que malgré tout ça, le fait qu'on soit beaucoup, etc., n'empêche pas d'avoir beaucoup de responsabilités, et ce, dès le départ. Ce qui fait que moi, j'ai appris énormément en peu de temps, et ça, c'est assez gratifiant.
Merci pour ton explication. Selon toi, quelles sont les compétences à avoir lorsqu'on travaille en tant qu'attaché financier et comment les as-tu acquises, vu que tu nous as expliqué que avant d'aller chez Fed Asile, tu étais plutôt en marketing et que tu n'avais pas spécialement ces compétences financières?
Exactement comme tu le dis, moi j'ai pas vraiment fait de spécialisation en finance. En fait, en master à la LSM où j'étais, les spécialisations elles sont assez larges et j'avais pas particulièrement en fait spécialisation en finance ni de stage financier. Mais du coup, les études d'ingénieur de gestion ou sciences éco sont tellement larges et complètes qu'elles touchent à beaucoup de domaines de l'entreprise comme la finance, le management, le marketing, etc. Ce qui fait qu'on sort en fait avec la capacité et les outils et compétences nécessaires pour pouvoir s'adapter facilement dans les différents secteurs de l'entreprise. De toute façon, je trouve que c'est souvent dans la pratique qu'on apprend énormément et sur le terrain davantage que dans les livres. Du coup, la spécialisation que tu vas faire en master détermine pas du tout la direction que tu vas donner à ta carrière. Preuve en est, moi j'ai fait une spécialisation plutôt marketing et entrepreneurial et je me suis retrouvée en finance. Donc pour moi, tu as certaines compétences qui seraient utiles, mais pas forcément nécessaires de les avoir dès le début parce que c'est des choses que tu peux acquérir en travaillant sur le terrain directement. Mais déjà, logiquement, avoir fait des études plutôt à orientation économique, avoir quand même un esprit assez analytique, une certaine affinité avec les chiffres. Je pense aussi être précis et rigoureux, c'est quand même des qualités importantes. Aussi faire preuve d'initiative, avoir quelques connaissances quand même en audit et en finance en général, mais c'est des choses que vraiment tu peux apprendre aussi fortement en travaillant, et avoir aussi des bonnes compétences au niveau de la communication, parce que en tant qu'attaché financier, il y a énormément de contacts avec les différents membres qui coordonnent, et tu es aussi le point de contact financier pour les organisations et les partenaires, donc c'est important d'être quand même bon en communication.
Merci pour cette explication. J'ai encore une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a le plus surpris dans ton job quand tu as commencé?
Je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'était plus au niveau procédural, parce que c'était pas quelque chose que j'avais croisé dans mes précédentes expériences, dans les stages, etc. En fait, j'ai remarqué que dans le public, si par exemple je peux donner un exemple concret de mes premiers jours chez Fedasil, je devais par exemple envoyer des lettres pour des subsides aux différentes communes de Belgique qui ont un centre d'accueil sur leur territoire, et donc elles ont droit à un subside annuel pour cela. Pour envoyer par exemple une lettre, il fallait passer déjà premièrement par ma responsable pour qu'elle valide les différentes lettres, puis par le directeur général pour qu'il signe les lettres, puis il fallait aussi passer par le cabinet du secrétaire d'État pour qu'il valide les différents subsides. Donc il y a énormément d'échelons par lesquels il faut passer pour avoir l'aval et l'autorisation. Donc c'est ça qui rend un peu tout le système beaucoup plus long que si on travaillait dans une entreprise privée où voilà, tu demandes l'aval de ton responsable et puis après tu peux procéder.
C'est bon à savoir tout ça et que la procédure est un peu plus longue que dans le secteur privé et qu'il faut donc parfois un peu être patient. On conclut toujours nos épisodes avec un petit conseil pour nos auditeurs. Est-ce que tu sais lequel serait le tien?
Moi, il y avait une phrase qu'un de mes professeurs avait donnée une fois et qui m'avait beaucoup marquée à l'époque parce que je trouvais que c'était très parlant et assez vrai. C'était que la chance que l'on a en sortant d'études comme ingénieur de gestion ou bien sciences éco, c'est qu'on sort avec une bonne boîte à outils avec laquelle on peut aller bricoler où on veut. Et je trouve que c'est hyper vrai parce qu'on acquiert vraiment des bons réflexes en sortant d'études comme ingénieur de gestion. Et donc, je trouve qu'il faut avoir confiance en soi, car même si son parcours ne nous prédestine pas à telle ou telle direction dans notre carrière, on a les outils qu'il faut via nos études. Et si on est motivé, je pense qu'on est capable de tout.
Ok, merci beaucoup Audrey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Best Regards.
De rien!
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, on espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager notre contenu et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes et futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine!